Radio Okapi.
Le journal Noéla Lusitu Kabambi.
Visite depuis samedi du chef de l'État congolais au Burundi, Félix-Antoine Tshisekedi, et l'invité de son homologue burundais, après la rencontre avec Evariste Ndayishimiye au palais présidentiel de Gitega samedi, Félix a répondu à quelques questions de la presse, les détails dans ce journal. L'ONG Colibri RDC Akbel dénonce la non-tenue depuis une semaine des audiences en matière pénale au tribunal de grande instance et au tribunal de paix de Butembo au Nord Kivu. Cette structure craint que la situation amplifie la surpopulation carcérale à la prison centrale de Kwangoura, qui enregistre à ce jour déjà plus de 800 détenus pour une capacité d'accueil de 300 personnes seulement. Tina Salama est l'invitée de Radio Okapi ce matin. La porte-parole adjointe du chef de l'État congolais va s'entretenir à la fin de ce journal avec Pierrot et la Meji sur la visite du chef de l'État de la RDC au Burundi. Bonjour à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne depuis samedi au Burundi, invité par son homologue burundais pour une visite de 3 jours. Après la rencontre avec son homologue Evariste Ndayishimiye au palais présidentiel de Gitega samedi, Félix Tshisekedi a répondu à quelques questions de la presse. D'autres détails avec vous, Pierrot et Lamigi.
Devant les professionnels des médias réunis au palais présidentiel de Gitega, le président Félix Tshisekedi a indiqué, je cite, « Je viens ici pour discuter des grandes choses qui vont dans le sens des intérêts de nos deux pays qui doivent se rapprocher et qui doivent développer des projets communs. » Le chef de l'État congolais a affirmé devant la presse qu'il va au cours de cette visite s'enquérir de ce qui s'est fait de très bien au Burundi, notamment dans les coopératives agricoles, l'organisation de l'armée pour se prendre en charge. Félix Tshisekedi a en outre indiqué que sa visite vise à s'inspirer des grands projets réalisés au Burundi. Parmi ces projets, il y a celui qui me tient à cœur, a-t-il dit, celui du chemin de fer qui partirait de la Tanzanie et qui passerait par le Burundi pour se terminer au Congo et plus précisément à Kindu. Nous avons également un projet de construction d'un pont entre le Sud Kivu et une des provinces burundaises, a-t-il souligné, affirmant qu'il y a beaucoup de choses à passer en revue. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a posé une gerbe de fleurs et s'est recueilli au mausolée du feu président Pierre Nkurunziza et une visite à l'Institut des sciences agronomiques et zootechniques de Gitega.
Mais avant son voyage pour le Burundi, le président de la République a présidé vendredi le Conseil des ministres du gouvernement Samalou Kondé. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a évoqué au cours de cette rencontre la nécessité pour la RDC de lancer la production nationale de bitume. Selon lui, la RDC dispose non seulement des gisements de bitume, mais également des capacités techniques et financières suffisantes pour en produire localement. Ainsi, le chef de l'État congolais a-t-il émis le vœu de voir ses richesses valorisées. Le condensé du compte-rendu du Conseil des ministres avec vous, Blaise Ndongala Mayanda.
Selon les comptes rendus du dernier Conseil des ministres publié par le ministère de la Communication et Médias, le bitume est un composant important dans les revêtements des axes routiers. D'où les regrets du chef de l'État de voir que la Société congolaise des industries de raffinage Socir, qui a reçu du gouvernement une unité de production de bitume, n'enregistre à ce jour aucune production. Pour lui, je cite, il est donc plus qu'urgent de relancer les activités de production de la Socir dans la perspective notamment du lancement du programme de 145 territoires qui nécessitera l'approvisionnement en bitume pour la réalisation des milliers de kilomètres de routes. D'où le souhait du chef de l'État de mettre en place une commission spéciale chargée de dresser l'état des lieux et d'élaborer le plan de relance de la Socira. Le compte rendu du Conseil des ministres a évoqué également le souhait du président de la République de voir s'élargir la zone économique spéciale de Maluku pour une section de la société sidérurgique Socider pour la relance de la production de l'acier. Le document revient aussi sur l'exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'affaire des activités armées sur les territoires congolais par la République de l'Ouganda. Et en prévision de la première phase de l'exécution du versement de l'indemnité de 65 millions de dollars américains, il a demandé la mise en place côté congolais d'une commission technique chargée d'accompagner le gouvernement dans l'exécution de l'arrêt ainsi que l'actualisation urgente du fonds d'indemnisation des victimes.
Parlant de la zone économique spéciale pilote de Maluku évoquée le week-end au Conseil des ministres, vous l'avez suivi, sachez que les travaux de construction ont démarré la semaine dernière et cela près de 10 ans après sa création, du moins sur papier. Les travaux de traçage et de forage lancés par la société chinoise céramique, spécialisée dans la production des matériaux de construction, dont les carreaux, ont été inspectés ce week-end par le ministre de l'Industrie. Julien Paluku était accompagné du chargé de mission de l'Agence des zones économiques spéciales, des techniciens de son cabinet, cabinet et des responsables des entreprises qui ont déjà signé le contrat d'occupation de cette zone pilote de l'Est de Kinshasa. Alain Irung pour les détails.
Pendant cette visite d'inspection, les sociétés Veron Beuvrage, Pepsi et Unique Pharma ont également déroulé devant le ministre Julien Paluku leurs plans respectifs pour débuter avec les travaux d'installation de leurs usines. Satisfait, le ministre de l'Industrie précise.
Je suis passé pour voir 14 jours après seulement la signature du contrat d'occupation des parcelles ici, voir que l'entreprise a commencé. Et les entretiens que je viens d'avoir avec l'entreprise céramique, c'est de nous dire que dans les 45 jours à dater d'aujourd'hui, elle va terminer déjà les terrassements pour que les travaux de fondation commencent et que à la fin de l'année 2022, début 2023, donc une année après la date d'aujourd'hui, eh bien la RDC va commencer à produire ses propres matériaux de construction et ainsi diminuer de près de 40 à 50% le prix des matériaux de construction, ce qui va permettre aux gens de construire davantage.
Avant de quitter le site, le ministre de l'Industrie a échangé avec le premier lot des Congolais déjà recrutés. Julien Paluku leur a recommandé le respect des règles et éthiques car 2000 emplois directs seront créés rien qu'avec céramique, a-t-il précisé.
Toujours en économie, en plus bref, parlons de la situation des stocks en jet A1, souvent appelé kérosène, et en gasoil au niveau de la société CEP Congo. Dans une correspondance datée du 16 mai, adressée au ministre des Hydrocarbures et parvenue à Radio Okapi hier, la direction générale de cette entreprise explique que les stocks physiques disponibles en gasoil et en kérosène sont justes pour une consommation de 5 jours, soit jusqu'au 21 mai dernier. Par la même correspondance, CEP Congo informe le gouvernement qu'elle est dans l'obligation d'élargir le contingentement de kérosène et du gasoil pour essayer de faire jonction avec l'arrivée des bateaux entre le 27 et le 30 mai prochain. Et le compte-rendu du Conseil des ministres du 20 mai renseigne que le Premier ministre a reconnu avoir été saisi par CEP Congo à ce sujet. Face au risque de pénurie, les ministres des hydrocarbures a formulé plusieurs propositions au gouvernement qui les a adoptées, mais le document n'a donné aucune précision sur ces propositions. Pendant que la loi électorale est en examen à la commission PAJ de l'Assemblée nationale, la synergie des femmes de la société civile, CIFES, alerte les députés nationaux sur leur responsabilité de donner au pays une loi avec des bonnes réformes. Dans un point de presse ce week-end à Kinshasa, la présidente de CIFES a demandé aux députés nationaux de revenir à la raison pour éviter au pays des violences post-électorales. Rose Moutchang a plaidé pour que cette loi électorale soit adoptée telle qu'elle a été présentée par le G13 et acceptée par la société civile. Ces propos ont été recueillis par Fulbert Balolagué.
Nous disons que soit les réformes ou soit vous allez aux élections sans les femmes. Et les réformes à tous les niveaux, où d'abord la femme a sa place dans ces élections, parce qu'il y a la constitution qui a déjà établi qu'il faut la parité en toutes choses. Il faut que tous qu'on ait la même chose. Les nombres de candidats hommes sont les nombres de candidats femmes. Deuxièmement, il faudrait que nous tous nous y allons avec la même chance. Pendant la campagne, pas de cadeaux. Amener le discours. Ce n'est pas normal qu'une seule personne puisse se représenter à tous les niveaux. Et en plus de cela, vous n'avez que des suppléants, les membres de votre famille. À l'hémicycle là-bas, nous avons un parlement des copains, un parlement familial. Tout ça, c'est ce qu'on veut corriger avec les innovations qu'on amène dans la proposition de la loi électorale qu'a présenté le G13. Mais en dehors de tout cela, il faut vraiment qu'il y ait la transparence, c'est au niveau de la CENI. On veut changer pour qu'il y ait la transparence, c'est que les candidats soient capables, le jour même des votes, de connaître son sort.
La question des élections a été aussi au centre de la première rencontre de la nouvelle plateforme de la société civile dénommée Vigilance citoyenne électorale, plateforme qui a vu le jour ce week-end à Kinshasa. Selon son coordonnateur Hervé Diakessé, son objectif est de surveiller le processus électoral en RDC. Il appelle les Congolais à se mobiliser pour que l'Assemblée nationale intègre dans la loi électorale la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Hervé Diakessé est au micro de Paul Matendo.
Comme vous le savez, c'est une organisation qui vient de se créer, essentiellement composée des mouvements citoyens, mais qui s'adresse à tous les autres Congolais, sans considération d'appartenance, que ce soit politique ou sociale, aucune. Pourquoi ? Parce que nous constatons les grands dangers qui viennent à nouveau d'entrer dans notre pays. C'est la tricherie qui s'annonce aujourd'hui à découvert. en ce qui concerne les prochaines élections, qui clairement refuse la transparence avec les tripatouillages de la loi électorale qui s'opère à l'Assemblée. La question est de se mobiliser sur le fait qu'on veut l'affichage des résultats bureau de vote par bureau de vote. Les résultats bruts qui sortent immédiatement du dépouillement. On ne veut pas des gens qui sont candidats sans afficher leur appartenance politique. On ne veut pas de la suppléance familiale. Ça, on ne veut pas. On veut la traçabilité des résultats issus des bureaux de vote. On veut la cartographie. On doit connaître tous les bureaux de vote avant même qu'il y ait le calendrier électoral.
Au Nord Kivu, l'ONG Colibri RDC Asbel dénonce la non-tenue depuis plus d'une semaine des audiences en matière pénale au niveau du tribunal de grande instance et le tribunal de paix de Butembo. Dans un communiqué de presse rendu public ce week-end, cette organisation de défense des droits de l'homme déplore le fait que cette situation risque d'amplifier la surpopulation carcérale à la prison centrale de Kakwangura, qui enregistre à ce jour déjà plus de 800 détenus pour une capacité d'accueil de 300 personnes. Richard Kasereka Ndekeninge, coordinateur de Colibri, explique au micro de Grâce Hamza Tiassani.
Même si on se trouve dans une situation d'état de siège, le président de la République a déjà émis une ordonnance en mars dernier autorisant ces juridictions à reprendre leurs activités pénales sauf pour certaines infractions. Malheureusement, brusquement, les parties sont arrivées vendredi passé au tripé et ont constaté qu'il n'y avait pas audience. La chambre de conseil devrait avoir lieu mardi passé. Le tribunal de paix ne s'est pas rendu à la prison pour régulariser la détention. Pareil pour le TGI mercredi ainsi que jeudi. Donc on se rend compte que les juges n'ont pas l'intention de siéger et on ne fournit aucune explication et entre-temps les personnes sont en détention dans une situation irrégulière et cela est très inquiétant, ça constitue une terrible violation de leurs droits. On ne peut pas continuer à mettre les gens en prison alors qu'on n'a pas les moyens de les prendre en charge. Le problème, il est là. Il y a eu 3 morts la semaine passée pour cause de manque de nourriture. Et malgré ces conditions, les juges refusent de se présenter au tribunal pour régulariser la situation des gens, parce que c'est à cette occasion aussi qu'ils peuvent décider d'en libérer quelques-uns. On est arrivé au TGI comme au tripé. Il n'y a aucune affiche qui justifie pourquoi il y a non tenue des audiences. Il n'y a aucune communication, en tout cas officielle.
Contacter le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Butembo a promis de réagir dès que possible. Examen d'état édition 2022, les épreuves hors session, c'est pour ce lundi 23 mai sur toute l'étendue du territoire national dans la province du Maniema. Tout est fin prêt pour la passation de cette épreuve. La confirmation vient de l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Maniema 1. Samoukina Joseph Diangenda précise que l'organisation du déploiement des mâles des items dans les sous-divisions éloignées a déjà été faite. On écoute Diangenda Samoukina Joseph au micro de Florence Kizalunga.
Dans la province éducationnelle de Maniema 1, nous avons déjà terminé avec le déploiement des mâles dans les sous-divisions les plus éloignées. Et dans tous les centres, le vendredi, le 20 mai, on a déjà ouvert tous les centres de passation. Après ce déploiement, nous donnons l'assurance à tous les parents et tous les élèves que d'ores et déjà, ils doivent s'apprêter. Tout est déjà fin, prêt. Et ils peuvent déjà passer dans les centres de passation pour remplir les formalités. Là, nous voyons le chef d'établissement déposer les rapports de stage, etc. Nous avons déjà terminé avec l'organisation technique. Nous n'attendons que le jour J, donc le 23, pour que les épreuves de la hors-session soient lancées dans notre province éducationnelle. Nous donnons une mise en garde sévère à tous les intervenants au centre. Tout le monde doit faire preuve. Nous n'avons pas le droit de brader notre système d'évaluation qui constitue une fierté pour notre pays, la RDC. Alors nous les mettons en garde. Ils sont proches ou sur la porte de la prison s'ils se mettent dans les différentes débauches dans les centres de passation.
Actualité internationale. Des nouvelles inondations se sont produites ce week-end après 2 jours des pluies diluviennes dans la ville de Durban, en Afrique du Sud, sur la côte est du pays. La situation est complexe. Quelques centaines de personnes ont dû quitter leur maison. Pas de victimes pour le moment, mais les dégâts matériels sont importants. Des portions de routes éventrées, des ponts brisés et des voitures renversées. Plusieurs quartiers de l'agglomération de Durban sont totalement défigurés.
L'invité.
Nous l'avons dit au début de ce journal, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi effectue une visite officielle au Burundi depuis le samedi sur invitation de son homologue Evariste Ndayishimiye. Les deux chefs d'État se sont penchés sur plusieurs questions, notamment sur la possibilité de relancer l'Institut des recherches agronomiques et zootechniques IRAZ. Cet institut a été créé en 1979 à Lubumbashi dans le cadre de la CPRGL pour assurer les recherches et développer le secteur agricole entre la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda. Des mesures viennent d'être prises pour redynamiser les activités de cet institut, comme le confirme Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État. Elle s'entretient depuis Gitega au Burundi avec Pierrot et la Mégie.
Madame Tina Salama, bonjour. Quelles ont été les grandes activités du chef de l'État au deuxième jour de sa visite au Burundi?
Bonjour, monsieur le journaliste. Il faut dire qu'au deuxième jour donc, de la visite officielle du président Félix Tshisekedi au Burundi, les couples présidentiels, burundais-congolais donc, ont effectué une descente à Gitega. Alors sur place, ils se sont arrêtés en tout cas au mausolée du feu président Nkurunziza, où le président Félix Tshisekedi a déposé une gerbe des fleurs. Ensuite, il a visité le nouveau palais présidentiel de Gitega qui est en construction. Alors, le plus important dans cette étape, il faut le dire également, c'est qu'il était question de visiter l'Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique, IRAZ, qui a été créé, on va le rappeler, dans le cadre de la CPGL en 1979 à Lubumbashi par les chefs d'État de trois pays, donc le Rwanda, le Burundi, le Zaïre, à l'époque. IRAZ avait comme vocation la recherche agronomique. Cet institut connaît beaucoup de difficultés de fonctionnement. Il y a eu beaucoup d'oléances, notamment sa relance. Surtout pour que ça puisse bien fonctionner, il faut donc la libération des contributions des États, les paiements des arriérés de salaire et surtout remettre en place le comité de direction dont la RDC a donc la direction principale, le Rwanda aura les finances et puis le Burundi a notre poste important. Ils ont vraiment fait un plaidoyer pour que le président Félix Tshisekedi, avec son homologue, puisse peser de tout leur poids pour que cet institut de recherche agronomique de la sous-région puisse redécoller.
Quels sont les points principaux qui ont été abordés par les deux chefs d'État lors de leur tête-à-tête, que ce soit le samedi ou le dimanche?
Les grandes questions qui ont été abordées lors du tête-à-tête, on va dire que ça reste sécuritaire, économique et de développement. Donc on va dire que l'axe Bujumbura-Kinshasa se renforce de plus en plus et cela ne peut qu'avoir des retombées positives, comme le disait si bien le président burundais Ndayishimiye. Alors, développer des projets intégrateurs comme le marché transfrontalier de Gatumba, le chemin de fer, vous en souvenez, on en avait parlé déjà à l'époque de la visite du président Ndayishimiye au Congo, c'était au mois de juillet de l'année passée. Donc ce serait un chemin de fer qui relierait la Tanzanie à la RDC via le Burundi et qui serait en quelque sorte comme un raccourci, on va dire, pour désenclaver certaines villes de la RDC, Kindu par exemple. Et vous savez aussi, il y a le port de Dar es Salaam. Le Burundi est très proche de ce port-là et même toute la partie est du pays. Pour certaines marchandises, donc, il passe par le port de Dar es Salaam qui a plus de facilités au Burundi. Donc ça va désenclaver certaines villes, comme je l'ai dit. Ils ont également parlé du transport maritime sur le lac Tanganyika. Vous savez, c'est un lac très poissonneux, mais qui est très peu exploité par les deux pays. En bref, on va dire que ce serait la facilitation des échanges commerciaux ou un partenariat win-win qui profiterait aux deux pays. Alors, sur le plan sécuritaire, le président Ndayishimiye a vraiment salué les efforts du président Félix Tshisekedi de tout mettre en place pour pacifier la partie est du pays. Il a reconnu que tous les projets de développement ne peuvent pas aboutir tant que la stabilité et la sécurité ne sont pas revenus dans toute la sous-région, dans cette partie du pays. Et donc, il va soutenir les efforts du président Félix Tshisekedi pour éradiquer les forces négatives et les groupes armés qui pullulent encore dans la partie est du pays.
Ont-ils abordé les questions liées à la sous-région?
Concernant la sécurité ou sur le point sécuritaire, ils ont en tout cas insisté que ça restait la priorité. Et donc, un point sera fait chaque trimestre. Mais ils ont quand même dit que toutes les questions liées à la sécurité seraient soumises ou renvoyées à la East African Community à laquelle la RDC a adhéré pour pouvoir trouver une solution d'ensemble. Et puis le président burundais a demandé le soutien de la RDC pour son adhésion prochaine à la SADC. Donc on va dire en gros que la convergence des vues en matière sécuritaire, économique et de développement entre les deux pays était vraiment flagrante, si on peut le dire ainsi. Ils sont tout de suite d'accord sur beaucoup de points. Et donc ils sont convaincus que les deux pays peuvent résoudre leurs problèmes en se mettant ensemble. Donc le président Tshisekedi a terminé par dire que le Burundi aujourd'hui, avec son président Ndayishimiye, est un allié solide. Et donc le Burundi est donc un pays frère et ami sur lequel la RDC devrait désormais pouvoir compter.
Madame Tina Salama, je vous dis merci.
Merci à vous.
Et c'est la fin de ce journal de deuxième du jour sur Radio Okapi. Merci à vous tous qui l'avez suivi.